Bonjour à toutes et tous, voici Rencontre avec les avocats du barreau de Bourges. Et aujourd'hui, nous accueillons maître Dominique Lacroix. Bonjour maître.
Bonjour monsieur Bouillaguet.
Bonjour monsieur le bâtonnier.
Oui, puisque j'ai été élu en qualité de bâtonnier des avocats du barreau de Bourges. Et au 1er janvier 2022, je vais succéder à monsieur le bâtonnier Tanton.
Voilà.
À la tête de l'ordre.
Alors, vous êtes à la... Alors, on parle du barreau et de l'ordre.
On parle du barreau et de l'ordre.
Oui.
Puisque les avocats d'un barreau constituent un ordre.
Ah, d'accord. Donc, barreau, c'est géographique, pratiquement.
Voilà.
Oui, c'est ça.
Un barreau auprès de chaque tribunal judiciaire.
Et le... Alors, il y a le barreau, c'est... Je suppose que ça vient de la barre.
Voilà.
Ouais. Et alors le bâtonnier, donc il y a du bâton là-dedans.
Le bâtonnier était autrefois l'avocat qui portait le bâton de Saint-Nicolas.
Ah, eh bien c'est bien.
Et oui. Actuellement, l'avocat a pour mission de représenter l'ordre et de présider le conseil de l'ordre qui règle les affaires du barreau.
D'accord. Le conseil de l'ordre, on assimile ça, parce que c'est le même mot, au conseil de l'ordre médical.
C'est exactement la même chose.
C'est exactement la même chose ?
C'est exactement la même chose, puisque le conseil de l'ordre des avocats règle les affaires du barreau, l'administre, il a des compétences en ce qui concerne l'établissement du tableau, en ce qui concerne le budget de l'ordre, en ce qui concerne, un peu moins maintenant, mais la discipline... Et en ce qui concerne les contacts avec les magistrats, et il faut savoir que la profession d'avocat est une profession organisée. Mmh. Le conseil de l'ordre se réunit une fois par mois,
et
chaque membre a en principe des responsabilités. Durant 9 ans au conseil de l'ordre, j'ai été amené à siéger au bureau d'aide juridictionnelle. J'ai été amené à rédiger des rapports en vue de l'admission des nouveaux confrères, à visiter des cabinets pour vérifier que les installations de ceux de nos confrères respectaient les règles de dignité et de respect du secret professionnel.
Oui.
J'ai
Tant
été
qu'il y en a encore.
Pardon ?
Tant qu'il y en a encore.
Ah non, le secret professionnel des avocats, alors de ce côté-là... On doit dire que... Alors, je connais l'histoire,
oui.
Puisque le Conseil de l'Ordre était extrêmement attentif. Dans le cadre du projet de refonte de la justice, de la loi de confiance entre les citoyens et la justice, la question du secret professionnel avait été abordée par le gouvernement. Et il y avait à l'époque une divergence entre la position des Conseils de l'Ordre, qui considérait que le secret professionnel est le secret de l'avocat. Et la position, notamment du Sénat, qui considérait que l'avocat ayant deux activités, la défense et le conseil, les règles du secret professionnel n'étaient pas exactement les mêmes en ce qui concernait ces deux activités.
Ah oui, d'accord.
En ce qui concerne la défense... Le secret professionnel ne posait pas de difficultés.
D'accord.
En revanche, en ce qui concerne le conseil, il n'en était pas de même.
Ouais, ouais.
Puisque le Sénat souhaitait que le secret en matière de conseil puisse être levé dans un certain nombre de circonstances. C'était le blanchiment, le terrorisme, mais également la fraude fiscale.
Oui,
et lorsque l'avocat a été mis en cause. Alors, il y a de la jurisprudence, puisque le secret professionnel, ça ne veut pas dire que l'avocat puisse faire n'importe quoi sans qu'on ne puisse pas lui demander de compte. Mais il est vrai que le projet du Sénat méconnaissait cette idée qui existe depuis des générations, suivant laquelle, moi, le secret professionnel, j'en ai la définition suivante. Je pense à De Gaulle, je pense à Louis XIV et je pense à Dieu, puisque le secret professionnel, il est général, il est absolu et il est éternel, puisqu'il survit au décès de celui qui vous l'a confié. Et le secret professionnel, ça veut dire qu'un avocat qui est appelé à témoigner devant un officier de police judiciaire et devant un juge doit se présenter, doit prêter serment. Et dès lors que la question implique le secret professionnel, l'avocat a le droit de dire « Monsieur le juge, je ne vous répondrai pas, puisque votre question, je compte invoquer pour ne pas vous répondre le secret professionnel qui m'a été confié et dont je peux, en tant qu'auxiliaire de justice, me prévaloir.
» Et en fait, on parle du secret professionnel, mais en réalité, c'est le secret des clients.
Non, le secret professionnel, ça n'est pas une règle d'ordre privé.
Oui, mais c'est
pas une règle qui protège le client, c'est une règle qui protège la société.
Ben, ça protège
puisque
aussi
celui qui va voir un avocat, comme celui qui va voir un médecin, doit pouvoir s'ouvrir à lui.
Voilà, c'est ça, oui.
Sans, en ayant la garantie absolue que ce qui était dit ne sera jamais répété. L'avocat est surnommé le bavard dans l'argot des prisons. Or, l'avocat est toujours un bavard qui sait se taire.
D'accord. Bon,
Et bien plus, je me rappelle d'une affaire que j'ai plaidée il y a très très longtemps en matière de secret professionnel où et mon client était poursuivi à l'époque. On lui reprochait d'avoir monté une entreprise de ferraille. Et effectivement, il y avait des courriers l'avocat dans l'entreprise. Les gendarmes avaient effectué une perquisition.
Oui, d'accord.
Ils avaient saisi les courriers de l'avocat. Ils les avaient portés au procès-verbal de saisie. Et il avait également interrogé le client. Qu'est-ce que votre avocat vous écrivait en vous disant, etc.
Oui, et ça,
le dossier est arrivé devant le tribunal correctionnel. Il faisait 8 kilos. L'audience a duré 30 secondes.
Ben, bien sûr,
le juge a indiqué que compte tenu de l'erreur de procédure, la violation, l'erreur de procédure énorme qui avait été commise par les gendarmes de la brigade de recherche, le fond du dossier ne serait même pas étudié et la procédure serait annulée. C'est ce qui est la procédure a été annulée et il n'y a pas eu d'appel du ministère public.
Bien. Pendant qu'on parlait du barreau de Bourges, du Conseil de l'Ordre, alors, en fait, tous les avocats ne sont pas au Conseil de l'Ordre.
Non.
Il faut être élu, déjà.
Alors, le bâtonnier et les membres du Conseil de l'Ordre sont élus par leur pair.
Voilà, c'est ça.
Il faut avoir 4 ans d'ancienneté.
D'accord. Et c'est un vote qui a lieu tous les 2 ans.
Alors, le bâtonnier est élu tous les 2 ans. Les membres du Conseil de l'Ordre sont renouvelables par tiers tous les ans. Le mandat dure 3 ans.
Oui, il dure 3 ans.
Donc, chaque année, on réélit un tiers du Conseil de l'Ordre.
Et il y a, alors on connaît le bâtonnier, mais il y a une sorte de conseil d'administration, de bureau.
C'est le Conseil de l'Ordre.
Conseil de l'Ordre.
C'est le Conseil de l'Ordre.
D'accord.
Qui se compose, comme je disais, qui se compose d'un certain nombre d'avocats. Je reprends le fil de mon propos, puisque nous avions dérivé pour parler du secret professionnel,
voilà,
qui est également important. Et un certain nombre d'avocats qui ont chacun des responsabilités au Conseil de l'Ordre.
Toujours dans l'actualité, il y a eu un événement un petit peu exceptionnel, qui est la venue du Conseil constitutionnel à Bourges.
Oui.
Est-ce qu'on pourrait parler d'une audience foraine ?
Non.
Non, ça n'a rien à voir, parce que j'aime beaucoup ce
mot. On parle d'audience décentralisée.
D'accord. Parce qu'il y a des tribunaux qui font des audiences foraines.
Ah oui, mais ça, c'était autrefois, quand le tribunal... quand le juge de paix se déplaçait à Charroux avant 1971 dans le département du Cher,
voilà, ou
Dun-sur-Oron, mais bon, c'est très loin.
D'accord. Bon, alors le Conseil constitutionnel, il est venu à Bourges, bon, grâce à probablement à un de vos confrères, François Pilet, hein, mais il est venu pour débattre de deux QPC. Alors c'est l'occasion de reparler de la QPC.
La question prioritaire de constitutionnalité. Voilà,
qui est finalement très intéressante, qui lui donne beaucoup de travail. Et puis alors les deux cas...
Et de plus en plus de pouvoir.
Ouais, aussi, oui. Et les deux cas qui ont étudié à Bourges, j'ai trouvé qu'ils étaient particulièrement intéressants. Enfin, on voit cette institution un petit peu de loin, comme ça. On s'intéresse à elle, surtout en période d'élection. Et puis, on s'aperçoit que c'est une autorité judiciaire. Alors, est-ce que c'est une autorité judiciaire ou politique ?
Politique.
Politique.
C'est un juge politique, le Conseil constitutionnel. Il a des prérogatives en matière administrative et judiciaire, puisqu'il est amené, il peut être saisi dans le cadre d'une QPC, soit dans le cadre d'une procédure devant le tribunal administratif, soit dans le cadre d'une procédure devant le tribunal judiciaire.
Et oui.
Soit dans une loi où il n'y a pas encore de procédure.
Alors, c'est-à-dire que si on regarde bien les choses, il est saisi par le Conseil d'État, le gouvernement.
En matière de QPC, il peut être saisi.
Les députés pour faire des lois, pour vérifier que les lois sont conformes.
Alors, d'abord, il y a la saisine à l'origine, c'était le président de la République, le Premier ministre ou les présidents des deux assemblées.
Oui.
Ensuite, la réforme sous le président Giscard d'Estaing. 60 députés, 60 sénateurs, qui a été la première pierre de l'élaboration du statut de l'opposition dans le cadre de la Constitution de la Ve République. Mmh. Et ensuite, la dernière modification, c'était la QPC, c'est-à-dire la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel en faisant valoir que la loi qui était dont le procès posait la question de l'application était inconstitutionnel. Alors, les QPC se raréfient quand même, puisque maintenant, on a pu constater qu'à chaque fois qu'une grande loi était promulguée, le Conseil constitutionnel était systématiquement saisi.
Oui, c'est ça, oui.
Puisque, une fois qu'il s'est prononcé, il ne peut pas être saisi une deuxième fois.
Ah !
Une fois qu'il s'est prononcé sur un texte, il ne peut plus être saisi une deuxième fois.
Ah,
et
d'accord.
Pour bloquer la QPC, le Conseil constitutionnel est systématiquement saisi dès lors qu'une grande loi, enfin ce qu'on peut appeler une grande loi, est promulguée.
D'accord. Alors, pour en revenir à notre exemple donc Berruyé, il y avait deux QPC au programme. L'une qui concernait particulièrement les automobilistes, puisque ça parlait de l'interdiction de communiquer les endroits où se trouvaient les contrôles de vitesse. Et l'autre loi, qui est peut-être moins couramment utilisée dans la justice, mais quand même qui m'avait interloqué, c'est comment on faisait pour les confiscations de biens lorsqu'il y avait des époux ou des conjoints.
Voilà. Les confiscations de biens communs,
ouais,
entre les époux.
Alors, il y a un coupable, mais on confisque ce qui appartient aussi à l'autre, à un autre. C'est ça le problème, en fait.
Alors ça, c'est le problème de la règle. La plupart des Français sont mariés sous régime légal de la communauté. Mmh. Et en matière de droit des régimes matrimoniaux, la communauté se compose passivement des dettes délictuelles des époux. Il faut savoir que si vous êtes marié sous le régime de la communauté, vous avez un accident de la circulation et que vous n'êtes pas assuré, la charge, la dette de réparation l'auteur des faits vis-à-vis de la victime est une dette commune. Ça veut dire que vous pouvez être amené à payer pour l'accident de la circulation qui était causé par votre conjoint.
Voilà.
Bon, ben là, c'est la même chose.
Oui, c'est la même chose. Et alors, ça n'a pas été réglé de la même façon, apparemment, parce que le
Conseil... Oui, mais la confiscation, c'est une peine.
Voilà.
Ça n'est pas une dette civile. Non. Et il y a un grand principe, c'est le principe de la personnalité des peines.
Voilà.
Qui avait été quelque peu écorné.
Ouais, c'est ça. Alors, quand même, le Conseil constitutionnel a carrément renvoyé le texte...
Il a renvoyé le gouvernement à écrire un nouveau texte mieux fait.
Et avec un délai en plus assez rapide,
ça se fait de plus en plus souvent, puisque un certain nombre de lois, c'est notamment la loi sur qui a institué la garde à vue, le Conseil constitutionnel considère que la loi est illégale, elle n'est pas inconstitutionnelle, plus exactement, le terme serait mieux choisi, mais conscient du fait qu'on ne va pas pouvoir tout annuler, il donne un délai au gouvernement pour édicter, pour faire promulguer un nouveau texte qui est conforme à la Constitution.
Quand une QPC est acceptée par le Conseil constitutionnel comme ça, le procès qui l'avait causé, il est annulé, la procédure est annulée, comment ça se passe ?
Quand la QPC est acceptée, le procès reprend en fonction des instructions qui ont été données par le Conseil constitutionnel.
Le procès reprend ?
Oui, voilà. Mais si le texte, on imagine un prévenu poursuivi sur le fondement d'un texte qui était déclaré inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel, et ben dans une telle circonstance, les poursuites seront privées de base légale et le prévenu sera relaxé.
Oui, c'est ce qui était arrivé la première fois qu'on a fait ça. Je me rappelle, c'était une affaire plus ou moins sexuelle, une affaire d'harcèlement. La QPC avait conclu que la loi n'était pas assez précise, je me souviens.
Et le prévenu était relaxé.
Et le prévenu avait été relaxé direct.
Ouais. Oui, c'est le principe de l'égalité des délits et des infractions, des délits et des peines.
Mmh. Et alors, bon, c'est donc à revoir. Et puis alors pour l'autre QPC, alors ça concerne bien entendu les utilisateurs du fameux. Alors, c'est assistant à la conduite automobile, ça s'appelle officiellement.
Alors ça, c'était les
coyotes. Coyotes.
Pour ne pas le citer, mais bon.
Mais oui, mais c'est la marque.
On a le droit de le dire, hein. C'est dans les décisions de justice.
Oui, tout à
et
fait.
Et en droit, on a le droit de parler d'une décision de justice.
Bien sûr. Et puis, en plus, c'était la maison en tant que personne morale qui mettait en œuvre ce logiciel, qui avait déposé la QPC, donc.
Tout à fait. Non, mais on a le droit de le dire, c'est pas de la publicité. Le commentaire d'une décision de justice est libre. Oui, du moment qu'on ne commet pas un outrage à magistrat.
Bah, puis coyote, c'est un mot commun, quand même.
Oui, non, mais pas de problème en ce qui concerne ce point. Voilà. Faut pas avoir de pudeur de jeune fille. Le coyote, qui a quand même pour vocation, le petit boîtier a pour vocation, de vous permettre de respecter les limitations de vitesse, mais également de vous indiquer à des endroits, les endroits où une violation évidemment involontaire pourrait être sanctionnée par la présence d'un contrôle de gendarmerie en règle générale.
Voilà.
Bien. Le projet prévoyait pour le gouvernement la possibilité d'interdire à Coyote de signaler des contrôles sur les départementales.
Oui, parce que sur les nationales, ils n'avaient pas le droit de le faire.
Non, il y a un texte, européen sur les nationales, on ne peut pas y toucher. Mais le texte ne touche pas les départementales. Les routes à vaches n'étaient pas aussi bien protégées.
Oui.
Mais le Conseil constitutionnel n'a pas accepté la différence de traitement et il a considéré qu'on avait le droit de s'exprimer entre automobilistes sur les routes départementales comme sur les routes nationales. Mmh. Et le texte a été censuré.
Comme la montre à son tic-tac, le gendarme a sa tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tac-tac-tac-tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tac-tac-tac-tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous. Contravention, allez, pas de discussion, allez, exécution, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité. Les gens disent, oh les gendarmes, quand on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Je réponds du tac au tac, car pensez, j'ai ma tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tac-tac-tac-tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tac-tac-tac-tactique du gendarme, c'est d'être perspicace sous un petit air bonasse. Contravention, allez, pas de discussion, allez, exécution, allez. Je connais le métier, la tac-tac-tac-tactique du gendarme, c'est d'être constamment à cheval sur le règlement.
Et alors, ça, évidemment, c'est un petit peu anecdotique peut-être, mais ça rentre dans une problématique qui est en train de se développer, qui est, au fond, le secret dont les forces de police voudraient profiter. On n'aurait pas le droit de communiquer ce que fait la police, en fait, dans certains cas. Il y aurait ce désir de pouvoir garder secret certaines actions de la justice, ce qui, en principe, ne se fait pas, puisque la justice, c'est un service public. Et ça rentre. Je me souviens que dans les attendus de la délibération du Conseil constitutionnel, il y avait écrit que la restriction de la liberté de communication ne pouvait pas être autrement que
proportionnée.
Voilà, c'est ça. Et alors ça, proportionnée à quoi et à qui et comment?
C'est un texte qui est bien. C'est un mot qui est bien le juge administratif. Ouais. Dès lors qu'on parle d'atteinte aux libertés, pour qu'elle soit légale, il faut qu'elle soit proportionnée au but à obtenir.
Voilà. Et dans la mesure où le but à obtenir est évidemment de sanctionner un maximum d'automobilistes, la restriction de liberté paraissait naturelle aux forces de police. Alors, par contre, après, si on estime que le but à atteindre, c'est de faire que les gens respectent les limites de vitesse... Là, Coyote est un auxiliaire de la police.
Alors, on n'a pas le droit de. Alors, le texte est d'ailleurs assez particulier, puisque on n'a pas le droit d'interdire de signaler un contrôle de vitesse, mais si c'est un contrôle dans le cadre du plan Hubervilliers, d'un contrôle d'alcoolémie ou de drogue, là, on peut interdire d'en parler.
Alors, oui, ça c'est bizarre, ça, oui.
Oui.
Oui, c'est vrai, oui.
Enfin bon. C'est curieux, mais bon.
Bah, de toute façon, dans le mot proportionné, il y a une notion d'équilibre et c'est toujours délicat à fixer. Hein. La justice a une balance, hein, en principe, elle aime bien peser le pour et le contre. Et la notion d'équilibre la concerne au tout premier chef. Ce qui peut-être dérange beaucoup le pouvoir exécutif, notamment, qui souhaiterait que la justice soit rendue de manière plus automatique, j'ai l'impression. Il y a des...
Je pense que c'est pas ça.
Oui.
Je pense que c'est qu'on n'a pas les moyens de rendre une justice adaptée et qu'on ne peut pas ne rien faire.
Ah oui, faut meubler le vide. Alors, on va parler des moyens, justement, puisque il y a un aspect de la justice qui est très, très utilisé, qui concerne pratiquement tout le monde, et dont, c'est sans doute de ma faute, on ne parle presque jamais dans cette émission, c'est la justice civile. Alors, on parle toujours de la justice pénale, mais il y a aussi la justice civile qui, en volume d'affaires, est plus importante, je pense.
Oui, c'est à peu près la même chose.
Oui. Alors, quelle est la différence entre les deux, entre la justice pénale et la justice civile ?
La justice pénale, c'est la répression des infractions. Crimes, délits, contraventions. La justice civile, c'est le règlement des litiges entre les particuliers. Ça peut être un divorce, ça peut être un litige de voisinage, ça peut être un litige entre le propriétaire et son locataire. Ça peut être un litige de construction, ça peut être un litige de consommation avec un prêt à la consommation, ou même un prêt acquis pour acquérir une habitation non payée. Ce sont de multiples exemples.
Mais parfois, on n'est pas loin de l'infraction quand même. Je sais pas, je pense par exemple à des problèmes de consommation. Il y a un conflit entre un fabricant de matériel qui ne marche pas et ceux qui l'ont acheté, il y a une infraction quelque part, qui est celle d'avoir mis en vente un appareil.
Non, pas forcément.
Effrayant. Non.
Non, ça c'est la responsabilité du fabricant ou du vendeur qui a vendu une chose qui n'est pas conforme à l'usage auquel elle est destinée, et puis c'est tout. C'est du civil.
Et le client a commis une faute en l'achetant, d'une certaine façon.
Non, mais bon, le client est tombé sur le mauvais...
Oui, il a pas de
produit,
chance.
Ça arrive. Hein.
Voilà, oui, ça arrive. Oui. Alors, je sais pas, mais je pense que le plus gros des affaires, c'est quand même les affaires familiales.
En grande partie, ça a pris beaucoup d'essor.
Ah, ça a pris de l'essor. C'est donc une évolution sociétale.
Bah, les couples durent moins longtemps, mais ils ont toujours autant d'enfants.
Oui.
Donc, il faut bien régler le sort des enfants, les mesures provisoires quand ils se séparent.
Alors, donc, ça, c'est les affaires de famille, oui, bien sûr.
Voilà.
Mais pourtant, j'aurais dit que les gens consommaient de plus en plus et que les litiges commerciaux devaient être aussi de plus en plus nombreux.
Alors, les litiges de consommation, les responsabilités et les obligations qui pèsent sur les organismes de crédit sont de plus en plus nombreuses. Et c'est une bonne chose. Et maintenant, le banquier ou la société de crédit commence à faire un peu attention avant d'accorder un prêt à quelqu'un. Ce qui n'était pas toujours le cas auparavant.
Oui.
Puisque ces sanctions se manifestent notamment par le fait que si le banquier n'a pas respecté un certain nombre de prescriptions et qu'il n'est pas payé, il ne sera pas remboursé.
D'accord.
Or, le banquier est un commerçant qui fait en règle générale attention à son portefeuille.
Voilà. Et est-ce qu'il y a des... Alors, il y a le tribunal civil.
Oui.
Mais alors, le quid, par exemple, des prud'hommes, du tribunal.
Alors ça, c'est la réforme. La réforme de la justice.
Ah, une réforme, j'aime.
Une réforme, la Xème.
Oui.
Celle à laquelle on ne comprend rien, puisque le législateur est en train de modifier le code de procédure civile. Il a modifié le code civil. Il avait modifié avant le code pénal. Il a modifié le code de procédure civile et il l'a modifié... dans un sens où c'est pas très bien écrit.
Problème de français, quoi. Non, mais c'est vrai.
On a voulu entièrement réécrire un code de procédure, un code d'organisation judiciaire qui avait été mis au point patiemment depuis deux ou trois siècles.
Oui.
On a réécrit en trois mois. Et évidemment, on ne comprend rien à ce qui a été préparé dans les cabinets ministériels.
Ah, mais l'Assemblée, le législateur s'est prononcé là-dessus ?
Le législateur a voté, oui.
Bon.
Mais le problème, c'est qu'après, le législateur a voté trois articles et il faut savoir que la procédure civile est du domaine du décret, en grande partie.
Ah oui.
Donc, on a, en fonction des trois articles de loi qui ont été votés par les parlementaires, il a fallu réécrire le code.
D'accord.
Et ça n'a pas été bien fait, il faut quand même le dire. On a voulu, avant, on avait grosso modo le tribunal de grande instance qui jugeait les procès compliqués, construction, les prêts immobiliers, et le tribunal d'instance qui jugeait les litiges de voisinage, les crédits, les baux. On a voulu tout réécrire. Ah,
je croyais qu'il y avait un tribunal spécial pour les baux.
Non, pas pour les baux d'habitation, c'était une compétence du tribunal d'instance.
Oui,
il y avait un tribunal pour les baux ruraux. Enfin,
voilà,
bon.
C'est ça. Oui.
Et puis pour les baux commerciaux, c'était le tribunal de grande instance. Enfin bon, on a voulu modifier, on a voulu réécrire pour faire quelque chose de plus simple. On avait le tribunal administratif, on a voulu faire le tribunal judiciaire. Et on a dit, on va tout regrouper dans un tribunal. L'idée se tient. En revanche, le diable vient toujours se nicher dans les détails. Et on sait qu'en droit, il y a des principes et qu'il y a après des exceptions. Et des exceptions aux exceptions. Le résultat des courses, c'est que la mise en œuvre a posé un certain nombre de difficultés. En fait, c'est les compétences du tribunal d'instance ont été regroupées dans la chambre de proximité du tribunal judiciaire, ce qui utilise cinq mots pour dire la même chose qu'autrefois on utilisait deux. Mais ça, on a mis du temps à le comprendre tellement le texte était mal fait et que maintenant... On s'arrache les cheveux. On nous a demandé de réécrire également entièrement nos actes de justice.
Ah oui.
Il faut savoir que pour maintenant, autrefois, quand on rédigeait une assignation en divorce, dans un cas de figure qui arrive quand même souvent, où on avait deux personnes qui étaient grosso modo d'accord pour divorcer, qui n'avaient pas de biens immobiliers, qui avaient deux voitures hors d'âge, où il y avait deux enfants avec un accord pour une résidence chez la mère, un droit de visite chez le père, et une petite discussion sur la pension alimentaire, l'acte de justice que nous rédigions pour saisir le tribunal à l'époque faisait 3 pages. Maintenant, il en fait 12.
Mais il n'y a plus de tribunal.
Si. Si. Alors ça, c'est dans le cas d'un divorce contentieux. Ah, alors, oui, le législateur n'a pas fait que de mauvaises choses. C'est vrai que le divorce par consentement mutuel, où le législateur avait décidé de sortir du cadre de 1976, on avait fait divorce par consentement mutuel, sous contrôle du juge, il dit maintenant, divorce par consentement mutuel, il y aura 2 avocats au lieu d'un. Et il y aura un enregistrement chez le notaire et un contrôle par le notaire, un contrôle qui sera uniquement formel. Mais il n'y aura plus de contrôle, d'opportunité par le juge, qui n'aura pas à conférer l'impérium à la décision.
D'accord.
Donc, par voie de conséquence, c'est le divorce par consentement mutuel, maintenant, c'est 2 avocats qui poursuivent des discussions et qui, après, rédigent une convention qui est notifiée à chacun des époux de façon à faire courir un délai de rétractation de 15 jours. Oui. Et à l'issue du délai de rétractation, si tout le monde est d'accord, il est procédé à la signature de la convention qui est ensuite adressée au notaire. Et lorsque le notaire a vérifié la régularité formelle de la convention et a établi l'attestation, on fait publier le divorce. Alors, c'est vrai que ça marche bien. Il faut 2 avocats au lieu d'un seul. Ça coûte peut-être un petit peu plus cher, mais ça va beaucoup plus vite parce qu'on n'a pas les délais d'inscription, on n'a pas les délais du palais de justice qu'on avait autrefois une fois qu'on était d'accord. Et puis ça évite également tout caractère conflictuel puisqu'on se retrouve dans un bureau d'avocat pour signer où c'est peut-être plus confortable que de faire que d'attendre dans la salle des pas perdus du palais de justice en se demandant si on va pas avoir un xème problème puisque. Et puis j'ai trouvé aussi, ça c'est une réflexion personnelle, que dès lors qu'il n'y avait plus de contrôle du juge, les avocats qui se contrôlent eux-mêmes deviennent beaucoup plus rigoureux.
Ah, peut-être bien, oui, l'auto-censure.
J'ai fait preuve de plus de rigueur
qu'autrefois. Ben, oui,
Et théoriquement, la convention peut être remise en cause, et je n'ai pas, à ma connaissance, vu de litige où la convention de divorce passée entre époux avait été remise en cause.
D'accord.
Du moins, il n'y a rien passé devant la Cour de cassation, et je ne sais pas s'il en existe actuellement devant les juges du fond, et sur quel problème.
Mais alors, quand même, je pense au notaire, là. Le notaire, son fonds de commerce, c'est les actes de propriété, d'héritage, de choses comme ça. Là, il se trouve garant d'un acte d'état civil, presque. Parce que le mariage, c'est un acte d'état civil.
Alors, le notaire, en principe, assure la conservation des actes.
Oui.
Puisque lui, il garde les actes, alors que les avocats ne les gardent pas.
Oui. Mais ça doit être encombré chez lui.
Certes.
Vive le numérique. Bon, en tout cas, deux remarques. D'abord, vous m'avez parlé du tribunal judiciaire. Mais quel drôle de nom, ça ! Comment un tribunal...
Il y a les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif.
Ouais.
Il y a le tribunal administratif. Maintenant, on a voulu faire le tribunal judiciaire... Par réciprocité.
Oui, une bonne symétrie. D'accord, je comprends mieux. Et puis alors, donc votre divorce par consentement mutuel laisse du temps libre au juge des affaires familiales, si je comprends bien.
Le juge des affaires familiales est peut-être la juridiction la plus encombrée de France.
Oui, la pauvre, oui. Alors j'aime bien le JAF, c'est il y a le JAP aussi, le JAF, je trouve que c'est ça.
Le GEX, ça. La chasse.
Ah oui. Alors, lui, le JAF, il a encore beaucoup de problèmes à régler. Et dans les problèmes de famille, il n'y a pas que le divorce. Mais j'ai l'impression que on passe assez vite de la justice civile à la justice pénale, quoi. Sitôt qu'il y a des coups portés sur les enfants ou sur le conjoint à la
salle. Oui, mais heureusement, c'est moins fréquent qu'on le dit.
Ah, bon. Malgré le Covid et le confinement, ça a pas... vous n'en voyez pas trop passer.
On en voit passer un peu plus qu'avant.
Oui.
Mais non, j'ai... En plus, c'est rarement une bonne méthode d'institutionnaliser le pénal pour essayer de faire passer un dossier civil.
Ah.
On n'étaye pas forcément bien un dossier civil avec une plainte au pénal. C'est deux choses différentes. Le tribunal correctionnel protège l'ordre public. Quand il est saisi par une partie, surtout, évidemment, quand c'est quelque chose de grave, d'accord, mais quand c'est Quand c'est le prolongement d'un dossier civil, le juge pénal, d'abord le parquet qui fait le filtre, est toujours très circonspect, et le juge l'est encore plus.
On a
pratiquement plus de poursuites pour abandon de famille. On fait une saisie terminée.
D'accord.
Oui. Et puis, je dois dire que j'ai rencontré une procédure où j'ai eu les pires difficultés à faire respecter un droit de visite et où l'utilisation de la juridiction pénale, qui était pleinement fondée puisque j'ai fini par obtenir des décisions de la Cour d'appel de Bourges et également d'une autre Cour d'appel puisque les choses s'étaient un peu compliquées. La plainte était entièrement fondée. J'ai eu les pires difficultés à ce que les juridictions pénales se mettent en branle.
Parce que au départ, ça sortait de du civil. D'accord.
On m'a dit débrouillez-vous, c'est pas du pénal. Si ça en était.
Il y a aussi une chose que les gens ne savent peut-être pas, c'est comment saisir la justice civile. Parce qu'on va pas au commissariat ou à la gendarmerie.
Non, c'est l'avocat
pour porter plainte contre son voisin.
C'est l'assignation ou la requête généralement. De plus en plus l'assignation.
Ouais.
On avait plusieurs modes de saisine. On avait l'assignation, on avait la requête, on avait la lettre recommandée avec accusé de réception, on avait l'assignation à jour fixe. Bon, le législateur de ce côté-là a essayé de dire il y a deux modes de saisine, l'assignation et la requête.
Et par exemple, inutile d'aller à la gendarmerie pour...
Totalement.
Totalement, voilà. Mais les gendarmes, ils vous foutent pas à la porte quand même. Qu'est-ce qu'ils font ?
Les gendarmes ont l'obligation de prendre les plaintes, mais c'est toujours la même chose. C'est vrai que la prise de plainte, c'est l'activité de base, puisque les gendarmes reçoivent les plaintes qui sont ensuite transmises aux autorités du parquet. Mais c'est vrai que dans certains cas, il est évident que les faits dénoncés ne revêtent pas une qualification pénale et que ne sont pas susceptibles d'être qualifiés d'infraction. Donc que doit-on faire ? La loi dit qu'il faut prendre la plainte. Oui, mais les gendarmes, c'est comme tout le monde, ils ont du boulot. Oui. Donc évidemment, prendre une plainte manifestement irrecevable, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Et ça fait encore du boulot, puisque la plainte, il faudra la prendre, il faudra l'instruire, il faudra la transmettre.
Oui, là, il y a un petit problème d'éducation du peuple, en fait. Là. Le terme de plainte, finalement, est un terme judiciaire.
Un terme qui est employé par le Code de procédure pénale. Le procureur de la République reçoit les plaintes et dénonciations. Voilà. Apprécie la suite à donner aux plaintes et dénonciations.
Plainte et dénonciation.
Bah oui.
Oui. Donc, la plainte n'est pas, a priori, liée au pénal ou au civil. C'est si, le
au pénal, elle est liée au pénal.
C'est le parquet qui apprécie.
Elle est liée au pénal, la plainte. Plainte, c'est au pénal.
Voilà, mais une plainte peut être rejetée par le parquet en disant « ça ne concerne pas... »
Le code de procédure pénale énonce que le procureur de la République est le juge de l'opportunité des poursuites.
Voilà, c'est ça. Mais alors, on a porté plainte...
Au pénal, oui.
Voilà, c'est rejeté
C'est rejeté... On va voir un avocat en disant « j'ai porté plainte, pourquoi la plainte a été rejetée ?» L'avocat demande la copie du dossier. On a la possibilité, le cas échéant, d'exercer un recours contre la décision du procureur de la République devant le procureur général, qui est en règle générale rejeté. Mais il peut arriver que ça donne satisfaction, ou alors de citer directement devant le tribunal correctionnel, ou de saisir. On peut plus saisir le juge d'instruction directement. Il faut maintenant attendre que le parquet ait rejeté. Ça commence à être un peu plus compliqué. Autrefois, ça m'est arrivé de faire ouvrir une instruction en 2 heures dans un dossier un peu particulier, où d'ailleurs les poursuites ne se justifiaient pas forcément. Enfin bon. Mais en règle générale, c'est vrai que dans la grande majorité des cas, quand la plainte est classée par le parquet, il y a des chances pour qu'elle n'aboutisse pas, quoi qu'on fasse.
Non. Mais alors après, l'avocat ayant constaté que au pénal il y avait aucune marge de manœuvre possible, on peut faire une assignation.
Alors on va envisager d'aller au civil.
Voilà, c'est ça.
Ça m'est arrivé.
Ah oui.
Plainte classée par le parquet, on comprend pas pourquoi. Bon, la pratique consiste à dire, on n'insiste pas parce que ça va pas marcher. Quand les dossiers qui arrivent par intermédiaire des avocats sont pas, ne remplissent pas de joie les juges du tribunal correctionnel qui ont déjà suffisamment de travail à faire. Donc par voie de conséquence, ça m'est arrivé. Ben on va en civil.
D'accord. Est-ce que dans l'autre sens, il peut arriver que une affaire civile soit reclassée par un juge comme affaire pénale. Je pense, par exemple, aux affaires familiales, où il peut y avoir des
Alors, c'est pas comme ça que ça se passe.
Non.
On imagine une séparation qui se passe mal. Avec, c'est malheureusement trop souvent le cas, le monsieur qui va frapper la madame.
Oui.
À tel point qu'on va avoir un certificat médical, on va avoir une incapacité totale de travail. Dans un cas comme ça, il y aura deux procédures. Il y aura la procédure civile pour statuer sur le divorce, sur la résidence des enfants, etc., dans les affaires familiales, et la procédure pénale devant le tribunal correctionnel.
Ah bon, c'est ça, précisé, on ne mélange pas les deux. Hein.
Alors, à une époque, on avait essayé, j'avais vu notamment à Poitiers, il y a très très longtemps, on avait une chambre de la famille qui jugeait à la fois les dossiers civils, les dossiers de JAF plus exactement, et qui statuait sur les délits liés au droit de la famille, c'est-à-dire le non-paiement de la pension, la non-représentation des enfants, les coups et blessures entre conjoints, concubins. Alors, c'est plus possible.
Ah.
Puisque la CEDH dit que chacun a droit, a droit à un juge impartial. Donc le juge ne peut pas connaître des conséquences pénales de la décision de civile qu'il a rendue parce qu'il ne serait pas impartial.
Ah oui, d'accord. Oui. On vit des fois sur cette idée fausse qu'un procès au pénal peut avoir une suite au civil pour régler des différends pécuniers, par exemple. Et ça marche toujours, ça.
Alors ça, c'est le juge pénal qui statue à la fois sur l'application de la loi pénale et sur la réparation civile.
Ah là, il fait les deux, d'accord.
C'est ce qui se fait le cas dans la plupart des cas. Mais il peut arriver aussi que le procès au pénal débouche après sur un procès civil.
D'accord, oui, c'est ça. Donc ça marche toujours, ça. Puisqu'on parle de la justice civile, on a un petit peu l'impression que c'est la mal-aimée du pouvoir, c'est-à-dire que la plus délaissée financièrement parlant, par exemple.
Alors, il faut quand même savoir que la justice, ce n'est pas un plaisir.
Non, bien sûr.
C'est un fléau, quand on est obligé d'y aller, il faut le dire clairement.
Ah ben, le fléau de la balance.
Et on a quand même très souvent de mécontents, hein, il faut quand même le dire.
Oui, c'est normal.
Il y en a un qui estime qu'il n'a pas assez gagné et l'autre qui estime qu'il a trop perdu.
Oui.
Donc, ce n'est pas quelque chose qui est valorisant, s'en occuper.
Mais alors, quand même, ça fait beaucoup d'affaires avec trop peu de moyens.
C'est ce qu'on dit depuis très très longtemps. Et c'est vrai.
Et en plus, on est montré du doigt sur le plan international. Parce que on a un budget qui est ridicule, presque. C'est un budget de pays en voie de développement, pratiquement, pour la justice.
C'est ce qu'on dit.
C'est ce qu'on dit. Et alors, personne ne fait rien. J'ai jamais vu beaucoup de candidats, à quelque élection que ce soit, brandir un grand projet d'enrichissement de la justice. Ça se fait pas trop.
Alors, c'est de la politique, mais la plupart du temps, on a des déclarations d'intention qui sont rarement suivies des faits.
Oui.
Quel qu'il soit.
Quel qu'il soit, oui, bien sûr. Et puis, surtout, le politique a l'air de préférer une justice pauvre, j'ai l'impression, par intérêt.
Il semblerait que ce soit la tradition depuis très très longtemps.
Ouais,
c'était déjà le cas sous Napoléon.
Oui, comme ça, oui. Et je ne comprends pas pourquoi, dans d'autres pays, ce n'est pas comme ça.
Je crois que c'est une tradition latine qui s'oppose à la tradition anglo-saxonne.
Peut-être bien, oui, c'est vrai. Ah oui, bah, par exemple, les anglo-saxons ont des juges qui sont souvent élus, ce qui n'est pas le cas chez nous. Ouais. Bon, et ben, alors, tribunal judiciaire, c'est réglé. La simplification, alors ça fait, maintenant quand on entend le mot signification, on a peur, et on se dit « ah, ça se complique ». Il y a eu aussi le mot digitalisation qui n'a pas donné tout à fait les résultats escomptés.
Alors, c'est vrai que la justice a toujours été extrêmement paperassière, comme toutes les administrations françaises.
Oui, c'est vrai.
Bon. Et de plus en plus, et grâce à l'ordinateur, on favorise l'écrit par rapport à la parole.
Oui, c'est vrai. Les gens voient dans
l'ordinateur... Alors que le code de procédure civile prévoit que dès lors qu'une des parties le demande, il doit être procédé à un débat oral devant le juge avant que celui-ci n'assoie sa conviction et ne rende sa décision. Il y a une politique des juges qui consiste à réduire ce débat oral comme une peau de chagrin, voire à le supprimer, à tel point que cela commence à poser honnêtement un problème.
Alors c'est ça, une sorte de simplification, mais une simplification vue d'un seul côté.
Donc à partir du moment où il n'y a plus de débat oral, il va y avoir deux fois plus de papier. Et comme on veut supprimer le papier, on va travailler avec des ordinateurs, ce qui suppose que nous soyons capables de modifier totalement notre façon de fonctionner et que nous n'ayons plus besoin d'écrire et que nous contentions de fichiers ou de supports numériques qui sont évidemment forcément très faciles à comparer, à utiliser simultanément. Oui. C'est une autre façon de procéder, c'est peut-être comme ça qu'on procédera peut-être dans quelques années, mais on est vraiment au point où on est en train de passer d'un système à un autre. Et c'est pas simple.
Et en fait, paradoxalement, l'ordinateur était fait pour supprimer le papier, et d'après ce que vous me dites, il a surtout supprimé la parole.
Moi, j'ai surtout considéré que l'ordinateur générait beaucoup plus de papier.
Bon. Vous m'avez dit combien ? Une forêt par jour ?
Oui, on dit qu'un palais de justice, c'est une forêt par jour, mais c'est pas très écologique, c'est certain.
Bon, d'accord. Bon, eh bien, je vous remercie de toutes ces idées et toutes ces informations. J'espère vous revoir bientôt, Maître Lacroix.
Merci, Monsieur Bouillaguet, bonsoir. Dum 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 dum.